Monsieur Rainville, bonjour.
Salut, Louis.
La retraite pour Maxime Dufour-Lapointe.
Oui, exactement. Puis je voulais commencer notre entretien aujourd'hui en faisant un petit clin d'œil au trio des sœurs Dufour-Lapointe qui nous ont vraiment épatés par leur performance. Et en particulier à Maxime qui a annoncé aujourd'hui qu'elle prenait sa retraite, âgée de 29 ans seulement, prend sa retraite de la compétition. Ses sœurs Justine et Chloé, avec Maxime, ont, sans l'ombre d'un doute, inspiré plusieurs jeunes filles et plusieurs garçons pour... Tu sais, la bonne façon de faire la compétition, de garder le sourire malgré tout, ouais. D'être gentil. Je pense qu'être gentil aujourd'hui en 2018, je pense que c'est encore important. Et c'est des filles qui ont été extrêmement gentilles. Et Maxime, elle, évidemment, avait pas nécessairement le plus beau rôle, à mon avis, dans ce trio des sœurs Dufour-Lapointe. Tu sais, c'est pas elle qui embarquait sur le podium.
Ouais.
C'est pas elle qui était la rockstar. Mais elle était là quand même. C'est un des premiers trios de sœurs à avoir participé aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Et malgré tout ça, elle a toujours eu, du moins ce que nous on voyait, elle a toujours eu la bonne attitude. Donc, je veux la saluer, je veux lui dire merci pour ses belles années. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite des choses, pour la poursuite de sa carrière. 29 ans, c'est jeune pour prendre une retraite, mais dans le monde du ski, on peut comprendre à un moment donné qu'il faut quand même tourner la page.
Est-ce que c'est elle qui était la plus vieille des trois?
Exactement, oui.
Oui, hein, c'est ça.
Quand même 4 podiums en carrière à la Coupe du Monde.
Ben là, tu sais, je veux dire, c'est assez remarquable quand même.
Quand même. Meilleur que moi puis toi, ça, c'est sûr.
Ah, ça, c'est certain. Même les deux ensemble, on serait
capable de faire ça. Oui, oui, oui.
Ça a même paire de skis, non, ça ne marcherait pas.
Non, ça ne marche pas.
Bon, Coupe Rogers maintenant, quelques surprises et quelques déceptions, bien sûr.
Ben, je vais commencer avec la déception. Hier, défaite d'Eugénie Bouchard qui s'est inclinée en deux manches de 6-2, 6-4 face à Elise Mertens. Bouchard, puis je vais t'expliquer un peu la rencontre, comment ça s'est passé. Mertens a pris les devants 5-0 en première manche. Vraiment, Eugénie Bouchard, mauvais début de match. Mm-hmm. Et là, par la suite, Bouchard revient dans la rencontre en fin de première manche, met ça à 5-2 et finalement, Mertens gagne la première manche 6-2. Eugénie Bouchard amorce la deuxième manche. Elle gagne les trois premiers jeux. C'est 3-0 pour elle dans la deuxième manche. Et tout à coup, besoin du physiothérapeute. Ampoule au pied. Je pense que c'est le pied gauche.
Ouais.
Et là, ça fait en sorte que par la suite, elle n'était pas capable de compétitionner. Et vraiment, on a eu la chance de voir des images du pied. Là. Tu devrais voir les bandages qu'il y avait là. Je trouve que les gens sont sévères. Tu sais, là, Eugénie, encore une fois, elle est partie. Puis j'entendais Régent Genois sur les ondes de TVA Sport dire « On a l'impression qu'elle est en train de subir un traitement de canal sur le terrain. » Je sais pas si moi, j'avais la même ampoule ou le même bandage au pied. Peut-être que j'aurais une face de gars qui subit un traitement de canal aussi. Mm-hmm. Mais honnêtement, elle a bien compétitionné. Malheureusement pour elle, problème physique. Mais je trouve que ça devient comme extrêmement facile de taper sur le clou d'Eugénie Bouchard. En quelque part, tu sais, elle a gagné en double. Elle va poursuivre son parcours en double avec Sloane Stephens. Mais tu sais, c'est une cible facile. Puis à un moment donné, je pense qu'il va falloir changer de cible un peu parce que la fille, je suis pas convaincu qu'en premier, là, c'est ça qu'elle a besoin. Mm. Puis tu sais, je suis pas là pour juger les autres. Je veux juste dire, je pense qu'elle a bien compétitionné dans ce match-là.
Bon.
Ça, c'est pour Eugénie Bouchard.
Bon, parle-moi de Françoise Abanda, par contre.
Oh, fait... attention, ça, c'était en soirée quelque chose de vraiment spécial. Françoise Abanda qui a gagné son match face à Christiane Flipkens en deux manches de 6-3 et 6-2. C'était tout simplement magique de voir Françoise Abanda éclatante de sourire à être là. Elle qui a connu, hein, on s'en souviendra, des moments difficiles où elle disait avoir été victime de discrimination. Je me souviens avoir eu une conversation avec Eugène Lapierre qui dit « On va l'encadrer quand on va venir à Montréal. » Parce qu'évidemment, les journalistes l'attendent toujours avec ça. Tu sais, est-ce que tu trouves encore que c'est comme ça? Mais bref, Françoise Abanda a parlé de la meilleure façon avec une victoire sur le terrain. D'ailleurs, en après-midi aujourd'hui, Françoise Abanda va affronter Sloane Stephens. Troisième tête de série, ça se peut que ça soit compliqué pour Françoise Abanda. Maintenant, on se dirige du côté de Toronto. Hier, le jeune Félix Auger-Aliassime,
ben
qui a effectué tout un match, a éliminé un gars du top 20, le Français Lucas Pouille, en deux manches de 6-4, 6-3. Vraiment, c'est tout simplement magique de voir un jeune de 17 ans, qui a 18 aujourd'hui d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Meilleur ami de Denis Chapovalov, les deux ensemble ont été éliminés en double. Mais écoute, c'est la relève, c'est ce qui s'en vient au Canada, c'est Félix Auger-Aliassime. Aujourd'hui, ce dernier va affronter Daniil Medvedev, 68e joueur mondial. Donc, si tu as battu un top 20, est-ce qu'on peut faire l'équation que tu es capable de battre quelqu'un qui est top 70?
Est-ce qu'on va revivre, l'épisode Chapovalov de l'année passée, mais avec Félix Auger...
Aliassime.
Aliassime.
Et pourquoi pas? Et tu sais qu'il y avait de la pression, parce que lui-même se mettait de la pression. Il dit, regarde, mon chum Dennis a fait ça l'année passée. Est-ce que je suis capable de faire ça cette année? Mm. Mais du moins, on a bien commencé avec une première victoire. Je te rappelle que Miloš Raonic hier a gagné son match 6-3, 6-4 face à David Goffin. Oui. Et aujourd'hui, Raonic est en action. Même chose pour Chapovalov. Cet après-midi à Toronto, va affronter Fabio Fognini. Donc, beaucoup d'action du côté de Toronto et Montréal.
Bon, mais tant mieux. Les Canadiens, en tout cas, font bien jusqu'à maintenant, là, à part Eugène.
Ben, faites du bien.
Ouais. Où est le renfort pour l'Impact maintenant?
Aïe, ça, c'est une drôle d'histoire. Je te remets dans le contexte. On est le 21 mai dernier. L'Impact est dans une situation extrêmement difficile. On perd des matchs. Les gens désertent le stade Saputo. Et M. Joey Saputo, le président de l'Impact, décide d'aller rejoindre Jérémy Filosa dans son bout de diffusion pour lui accorder une entrevue. Okay? Donc, et à partir de là, je ne sais pas si tu te souviens, c'est là qu'il a dit, tu sais, je ne suis pas convaincu, Piatti à 6 millions, j'aime mieux aller me chercher 3 joueurs à 2 millions. Ouais. Mais là, M. Saputo est extrêmement émotif. On le sait, on l'a vu par les années passées, il y a tout le temps une sortie en règle. Si ce n'est pas contre les médias, c'est contre les partisans. Si ce n'est pas contre les partisans, c'est contre son club. Il y a toujours une sortie en règle, M. Saputo. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Il est, écoute, il est émotif, c'est parfait. Mm-hmm. Bon.
Un Italien, après tout.
Ben oui, ben voilà. La commedia dell'arte. Donc, le 21 mai dernier, Joey Saputo s'entretient avec Jérémy Filosa et il dit une chose, il dit, écoutez bien, je ne baisse pas les bras, c'est sûr, il va y avoir des changements à l'effectif, on va s'assurer d'amener un club compétitif, on a besoin d'aide et on va le faire. Là, le mercato, le marché des transferts internationaux, ça se termine ce soir à minuit.
Ouais.
Donc, ce soir à minuit, c'est impossible d'aller chercher un gars appartenant à une autre équipe. Donc, on ne peut pas transférer un joueur à partir de ce soir à minuit. Par contre, d'ici le 14 septembre, on peut toujours aller chercher un joueur qui est sans contrat, un gars qui n'a aucune équipe. Ça, c'est possible de faire ça. Mais ce soir à minuit, c'est la dernière option que tu as pour aider l'Impact de Montréal. Hier, Rémi Garde, l'entraîneur-chef de l'Impact, en point de presse, a dit... Écoutez bien, il va falloir assurément avoir des attentes en fonction d'effectifs qu'on a. Ça veut dire, soyons réalistes, on manque de punch à l'attaque. Il y a Piatti qui est là. Mancuso a connu un certain succès tout récemment. Mais on manque d'aide. Et là, on fait rien du côté de l'Impact. Mais la problématique, c'est qu'on arrive encore une fois, et je sais que tout le monde essaie du mieux qu'il est capable d'aider l'Impact, mais on arrive encore une fois où on a été désorganisé et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'aider ce club-là à court terme, qui est dans une lutte pour avoir une place en série de fin de saison. Fait que, Monsieur Saputo, s'il vous plaît, un peu d'aide d'ici minuit ce soir.
Ben là, écoute. Bougeons un peu, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, comment de M. Saputo?
Voilà.
On va avoir des marqueurs de but. C'est comme ça que ça marche.
Merci, Jérémy. À demain.
Un plaisir. Salut.